France Info.
Et bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Avec Gilles Bernstein et Guy Birenbaum, et notre invité ce matin est député des Yvelines, candidat à la primaire de gauche.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Jean-Michel Apathy.
Vous avez donc participé hier soir au premier débat de la Belle Alliance Populaire. Vous êtes senti comment? Comment vous avez trouvé de l'intérieur, si je puis dire, ce débat?
Oh, je suis pas très satisfait, au sens où je pense que l'exercice est compliqué quand on est sept. C'est difficile d'aller au fond. Il y a un certain nombre de questions qui méritaient d'être approfondies. Je pense par exemple que quand je défends le revenu universel d'existence et qu'il y a des arguments contre, ça valait le coup d'entendre les arguments contre jusqu'au bout et que je puisse dire en quoi, à mes yeux, il ne tenait pas debout, et ça aurait mérité d'approfondir. Et au bout du compte, j'ai parfois le sentiment qu'on survole certaines questions, qu'on n'a absolument pas parlé d'écologie, par exemple, hier. Mmh. Bon, on en parlera peut-être après-demain et la semaine prochaine. Ouais. On n'a absolument pas parlé d'Europe. Ce qui, en lien avec les questions économiques, était quand même assez important. Qu'est-ce qu'on fait de notre dette? Est-ce qu'on la mutualise ou pas? Comment est-ce qu'on discute avec les Allemands? Donc, globalement, moi, je suis pas très, très, très...
Un peu de frustration.
Oui, de la frustration. Je pense que pour le spectateur, le téléspectateur, le citoyen, je pense que c'est un exercice assez peu éclairant. Et au bout du compte, surtout, ce qui m'embête un peu plus, c'est que je pense qu'il est assez peu séduisant. Voilà.
Assez peu séduisant.
Oui.
De quel point de vue assez peu séduisant?
Du point de vue de l'intérêt de la primaire. C'est-à-dire que quand on a un exercice qui est plutôt ennuyeux sur un moment comme celui-là, ça tient pas... ça aurait été mieux que ce soit moins ennuyeux. Mais je pense que, à la fois pour les journalistes et pour nous, je pense que dès lors qu'on est 7 et qu'on a 1 minute 30 à chaque fois et qu'il faut aborder 3 thèmes aussi importants que l'économique, puis la question du terrorisme de l'international, puis enfin la question de la laïcité de la République...
Mais aucun de vous... Aucun de vous n'a pris des risques, on vous a senti tous assez empruntés, ne voulant pas vous attaquer les uns les autres.
Bah voilà,
vous avez tous fait le choix
du jeu.
Pas beaucoup de débat entre vous, oui, c'est vrai. Pas
oui,
de débat.
Mais parce que soit on bascule dans le dénigrement très vite, et ça peut aller vite, hein, une phrase qui dérape un peu, mais du coup ça peut avoir de l'intérêt du point de vue
médiatique, pour le spectacle.
Ouais, ouais. Bon, honnêtement, d'abord moi j'ai pas de raison de me fâcher avec qui que ce soit en particulier. Et puis chacun, je crois, plutôt le souci d'avancer les arguments qui justifient sa candidature. Après, on est convaincu ou pas, si ces arguments sont solides ou pas, s'ils sont factices, s'ils... Mais ça, ce sont les spectateurs qui jugent.
Et du coup, vous semblez dire que c'est la forme, en fait, qui vous empêche de faire du fond, finalement.
Et les deux. Je pense que dans la période, moi, il me semble, c'est la raison pour laquelle je sors délibérément d'un cadre qui était celui, finalement, dans lequel se déroulaient auparavant les débats, où chacun défendait sa mesure pour la croissance, ici par la relance de l'offre, là par la relance de la consommation, chacun défendait une mesure fiscale, ici sur les entreprises, ici sur les ménages. Je pense que ce débat-là est intéressant, sauf qu'il ne parvient jamais à répondre à la question centrale, comment faire baisser le chômage, comment faire baisser les inégalités, et faire revenir un peu de prospérité. C'est pour ça que, pour ce qui me concerne, je sors du cadre, avec la question, le point que je pose, faut-il continuer à aller chercher une croissance qui se fait au prix de la dégradation de l'environnement? Et si on ne le fait pas, que fait-on à la place? Et je propose la transition écologique. Faut-il continuer à avoir une protection sociale qui protège mal? Et je propose le revenu universel d'existence. Mais dans ce cas-là, la difficulté de l'exercice d'hier, c'est que les critiques qui existent contre ce que je porte et qui ont structuré largement le débat de la primaire avaient du mal à s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans le temps qui nous est donné, même pour mes détracteurs, c'est compliqué, honnêtement, d'argumenter. Donc c'est plutôt frustrant pour cela. Mais voilà, après...
Bon, vous faites état de votre frustration avec une certaine honnêteté.
Mais je pense que les spectateurs...
On l'enregistre.
Les spectateurs aussi.
On verra le chiffre dans quelques minutes.
Mais je ne doute pas de ce qu'il fera.
Vous n'avez pas tort, pour mémoire, parce qu'on l'oublie vite, en novembre, le premier débat des Républicains avait aussi, c'était le sentiment un peu général, suscité un certain ennui. Et puis après, les choses se mettent en route. On verra s'il en sera de même pour vous. Malgré tout, votre programme a été l'objet de quelques critiques. On écoute Vincent Peillon.
Je ne crois pas, et je suis très inquiet du débat, que la gauche pourra gagner et battre la droite si elle arrive en disant plus de croissance, plus d'emplois, 400 milliards de plus d'impôts, et je vais taxer les robots.
Ce que indique Vincent Peillon, que d'autres peuvent ressentir, c'est la version un peu pessimiste de votre projet, Benoît Hamon.
Oui, bon, ça c'est un peu la vieille politique quand même, qui consiste à expliquer qu'on va faire du déficit, qu'on renonce à lutter contre le chômage. Bon, c'est pas pessimiste. Je prends acte hier, le Conseil d'orientation pour l'emploi, service placé auprès du Premier ministre, dit quoi? que dans les quelques années qui viennent, 10% des emplois français sont menacés par l'automatisation et la robotisation. Un emploi sur deux va devoir évoluer, ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'il va falloir investir dans la formation pour permettre aux hommes et aux femmes de s'adapter à ces évolutions-là. Ce que je dis, moi, c'est que c'est une opportunité incroyable, ce progrès technologique. Pourquoi ? Parce que cela veut dire que tout ce dont l'humanité a besoin nécessitera moins de travail humain. La question c'est, maîtrise-t-on cette transition ou laisse-t-on le partage du travail toujours s'opérer entre un chômage grandissant, des gens très heureux de travailler, qui ont les métiers les plus créatifs, qui font les lois travail pour tous les autres, et puis ceux qui, au milieu, sont parfois surmenés, travaillent trop et aimeraient travailler moins. Et ce que je veux simplement dire d'un mot là-dessus, c'est que cette transition, moi je propose de la maîtriser par le revenu universel d'existence, il suppose de repenser notre protection sociale, et donc d'en y ajouter un pilier. C'est effectivement quelque chose qui est, on dirait, systémique, mais je pense que c'est une perspective sérieuse. Et honnêtement, la manière un peu lapidaire, pour ne pas dire rudimentaire et caricaturale, dont Vincent l'a résumé hier, à mon avis, ne correspond pas à la nécessité qu'on a aujourd'hui de débattre de ces questions avec sérieux.
Mais peut-être qu'il est difficile de débattre de ces questions-là, c'est-à-dire d'une mutation importante de la société, dans le cadre d'une primaire où il y a 7 candidats, tous étant à égalité, oui, alors que non. Tous n'ont pas le même statut objectif, si je puis dire. C'est compliqué, quoi.
Oui et non. On a pu en débattre. Pas hier. Hier, je pense que personne n'a été éclairé sur le bien fondé ou pas de cette mesure. Mais souvenez-vous de là où nous partons. Quand j'ai commencé à avancer sur la question du revenu universel d'existence, la question était périphérique. Elle est devenue centrale et on aborde désormais, avant-hier, Daniel Cohen, sur l'antenne de France Inter, une antenne de la maison de la radio, de Radio France, disait, non seulement c'est réalisable, mais souhaitable. Et disait comment ? C'est intéressant de voir que quelques grands économistes aujourd'hui viennent aussi apporter leur contribution sur ces questions.
Et on en reparle dans 90 secondes, 8h40, sur France Info. Voici Victor Matin.
Il reste ce matin 11 départements du nord de la France, de la Manche jusqu'à l'Aisne, en vigilance orange à la neige et au verglas. Attention donc si vous devez prendre la route. En revanche, l'alerte au vent violent, elle est levée, mais 237 000 foyers très exactement n'ont pas de courant. Les secours sont intervenus près de 4500 fois ces dernières heures, dans l'Oise notamment. 2h30 de débat hier soir à la télé, le premier pour les 7 candidats à la primaire de la gauche. Unité contre une droite jugée brutale et divergence sur les programmes. Dans l'ensemble, un débat de bonne facture sans insurmontable fracture, résume le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis. C'est une surprise, l'Assemblée nationale donne son feu vert à l'installation de caméras de surveillance dans les abattoirs, mais seulement à titre expérimental à partir de l'an prochain, ce que regrette l'association L214 à l'origine de la diffusion d'images choc ces derniers mois. La CFDT du groupe Auchan se mobilise contre la généralisation des caisses automatiques. D'après le syndicat, cela entraînerait à court terme la suppression de 2000 emplois de caissières. Une opération de sensibilisation est organisée aujourd'hui dans la plupart des magasins, avec notamment la signature d'une pétition. Le sommet France-Afrique à Bamako au Mali, le dernier voyage officiel de François Hollande sur le continent. Au total, 35 chefs d'État réunis pour parler commerce et sécurité, 4 ans après le début de l'opération militaire française Serval pour libérer le nord du Mali des djihadistes.
Info. Benoît Hamon est avec nous dans l'émission politique de France Info ce matin et c'est Gilles Bornstein pour la question.
Oui, vous avez le débat effectivement beaucoup tourné hier autour de votre proposition sur le revenu minimum garanti. Il y a une critique à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est celle qui avait été formulée ici même par Manuel Valls. Cette semaine, on écoute l'ancien Premier ministre.
Je suis pour une société du travail, de la solidarité. Je ne suis pas pour une société de la cistana ou du farniente.
Du farniente. Alors vous êtes pour une société du
qui veut dire en italien ne rien faire, précise.
D'abord, deux remarques. Qui soutient cette proposition venant du monde du travail ? Édouard Martin, leader Florange de la défense des hauts fourneaux, leader syndical, est venu me rejoindre dans ma campagne pour soutenir cette mesure-là. Le travail pénible, il sait ce que c'est. Olivier Lebras, leader du mouvement syndical chez les GAD, abattoirs en Bretagne, il m'a rejoint. Il sait ce que c'est le travail pénible dans les abattoirs, dans l'agroalimentaire. Il croit au revenu universel d'existence. Je veux dire que savent que le revenu universel d'existence comme un moyen pour donner aux salariés de réduire leur temps de travail revalorise au contraire le travail. Quand on disait, pour un certain nombre de salariés, qu'il y avait parfois plus d'avantages à vivre des minima sociaux que du travail. Première chose. Et puis, société du farniente. Je l'ai entendu. Je trouve que, en l'occurrence, c'est assez paresseux intellectuellement. Pourquoi ? Parce que c'est le réflexe qu'on a connu au moment où Michel Rocard proposait le revenu minimum d'insertion. On disait déjà cela. Quand Martine Aubry a proposé la couverture maladie universelle, on prétendait aussi que ça allait entretenir la cistana. Ça n'appartient pas trop, normalement, au vocabulaire ou au lexique de notre famille politique. Dès lors que l'on pense à la réduction du temps de travail ou à permettre à des hommes et des femmes de se libérer d'un travail qui parfois épanouit, mais parfois n'épanouit pas, de leur donner ces instruments-là, il me semble que c'est... Bon, voilà, c'est une remarque que je trouve assez peu recevable, parce qu'elle est un peu caricaturale.
L'idée qu'on puisse payer quelqu'un qui fait le choix de ne pas travailler heurte. Et vous avez du mal à lutter contre ce sentiment.
Alors, regardons les expérimentations. D'abord, d'autres pays vont expérimenter. Nous-mêmes, en France, en Gironde, nous allons expérimenter une première forme de revenu universel. Mais là où cela a été déjà expérimenté, dans la ville de Winnipeg, au Canada, que s'est-il passé ? 1% des hommes ont quitté leur travail, 3% des femmes ont quitté leur travail. C'est qu'une expérimentation, et nous verrons ce que cela donnera. La raison pour laquelle j'y crois, moi, au revenu universel d'existence, c'est d'abord parce que je pense que c'est un besoin pour les nouvelles générations. C'est un besoin pour celles et ceux qui ont un travail pénible. Mais surtout, je veux le mettre en œuvre en plusieurs étapes. Et la première étape, qui nous donnera, on va dire, une perception beaucoup plus exacte des effets du revenu universel, notamment sur la question des salaires, c'est de le mettre en œuvre pour les jeunes de 18 à 25 ans, à raison de quoi ? Parce qu'ils sont les premiers touchés par la transformation du travail et qu'ils connaissent un travail qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Beaucoup de contrats courts, le passage du salariat au travail indépendant, à l'auto-entrepreneuriat, besoin de se former beaucoup plus. Et c'est la raison pour laquelle, de 18 à 25 ans, je propose que l'on mette en œuvre le revenu universel d'existence. Nous verrons l'impact qu'il a sur l'économie. J'ajoute ce qu'on ne dit pas. C'est que dès lors que le revenu universel d'existence existe, notamment pour les jeunes, il libère des emplois. Les centaines de milliers d'emplois étudiants aujourd'hui occupés par des jeunes qui ont besoin de travailler pour se payer leurs études, il fait quoi en plus ? Il permet de faire circuler de l'argent dans l'économie, puisqu'avec cet argent, on consomme.
Vous-même, vous avez dit hier soir, c'est pour le long terme, ça. Non, c'est pour le long terme.
Pour les jeunes, c'est pour le court terme. C'est une mesure d'importance. Quand je dis le long terme,
c'est très curieux d'avoir entendu hier soir. On vous questionne sur le chômage et tout de suite le débat vient sur le revenu universel. C'est comme si vous faisiez l'aveu implicite tous les sept que par rapport au chômage, vous n'avez aucune réponse.
Non, Jean-Michel Apathy. D'abord, ça fait 30 ans que personne n'arrive à régler la question du chômage. Moi, ce que je pense, c'est que le chômage...
En France.
Oui, mais ailleurs, on le règle à coup de pauvreté. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a moins de 6% de chômeurs, mais 17% de pauvres.
En Allemagne, en Grande-Bretagne, les taux de chômage ne sont pas ce que l'on connaît.
Est-ce que le but d'une société, c'est de faire que les gens travaillent... Non, mais que les gens travaillent, mais soient pauvres. Oui, mais je ne crois pas que quelqu'un qui travaille et qui est pauvre se sente très utile socialement et psychologiquement mieux qu'un chômeur. Objectivement, quand on est pauvre, on est pauvre. Et donc, la responsabilité de nos sociétés, c'est de penser les évolutions. Quand j'évoque la révolution numérique, j'évoquais tout à l'heure le rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi, j'aurais pu évoquer celui de l'OCDE, j'aurais pu évoquer celui de l'Université d'Oxford. Que dit-on par rapport à cela ? Il me semble que la grande affaire des décennies à venir, c'est le partage du travail. Et ce sera le moyen d'atteindre probablement le plein emploi, à condition qu'on accepte demain que l'on partage le travail. Je sais que c'est difficile, mais il me semble que c'est la voie qu'il faut emprunter aujourd'hui.
C'est un débat dont vous reparlerez probablement.
Autre sujet. Vous avez accusé hier soir, pendant le débat de la loi El Khomri, d'avoir permis un plan de licenciement dans un journal, La Voix du Nord, où 176 emplois pourraient être supprimés. Affirmation mise en cause par la ministre elle-même dans deux tweets que j'ai sous le nez. Non, Benoît Hamon, la loi travail n'est pas responsable du plan social de La Voix du Nord. Les plans de sauvegarde de compétitivité existe depuis 20 ans. Plus de 20 ans. Alors, pan sur le bec par la ministre.
Oui, ça ne m'a pas échappé que les plans de sauvegarde de compétitivité existaient. Sauf que la loi El Khomri introduit un changement. Le PSE, à la Voix du Nord, à l'été 2016, avait été refusé par qui ? La direction du travail. Elle a été autorisée au motif que quoi ? Qu'aujourd'hui, le groupe auquel appartient la Voix du Nord présente une baisse de son chiffre d'affaires. Or, la loi El Khomri a introduit une nouveauté pour permettre le licenciement économique, même quand un groupe est bénéficiaire. Là, il y a un résultat net d'exploitation qui est positif pour la Voix du Nord. Et le permet quand un seul indicateur de difficulté économique est présenté, notamment la baisse du chiffre d'affaires. Donc, oui, la loi El Khomri facilite les conditions du licenciement.
Donc, elle a tort.
Donc, je considère qu'elle a tort. Et je pense que sur ces questions, je l'invite à être prudente. Elle a elle-même choisi de faciliter le licenciement. Si elle a choisi de faciliter le licenciement, c'était notamment pour aboutir, j'imagine, à ce type de plan de sauvegarde de l'emploi qui vise à préserver la compétitivité des entreprises. En tout cas, c'est comme ça que l'interprètent les chefs d'entreprise. Donc, elle a les conséquences de la loi qu'elle a voulu.
Je voudrais être précis.
Et elle a les conséquences de la loi qu'elle a voulu. Faut quand même pas aujourd'hui nous dire que cette loi n'a pas voulu faciliter le licenciement. Oui, il l'a facilité.
Je voudrais être précis parce que moi, je connais pas le dossier, je le découvre de la loi du Nord. À l'été 2016, vous dites, c'est la direction du travail qui
a direct, oui.
Et elle l'a accepté là.
Elle est en voie d'homologation, je crois qu'il est accepté, ouais.
Ou en tout cas,
je peux pas dire à 100%, mais je crois qu'il est en voie d'homologation.
Je ne sais pas. Ouais. D'accord. Bon, on vérifiera tout ça.
On vérifiera tout ça.
Si la direction du travail l'a refusé en 2016, elle ne peut l'accepter aujourd'hui que parce que la loi a changé.
Donc la ministre
ne le sait peut-être pas.
Mais elle ne le sait peut-être pas. Ce qu'elle dit, c'est que les plans de ce que vous gardez de compétitivité existaient. Oui. Les conditions des licenciements économiques ont-elles été facilitées par la loi El Khomri ? Oui. Aujourd'hui, le fait de justifier d'une baisse de commandes ou de chiffre d'affaires, d'une perte d'exploitation ou d'une dégradation de trésorerie peut justifier la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La réalité, c'est celle de la loi qu'elle a elle-même écrite.
Très bien. Vous avez aussi évoqué pendant ce débat, je me mélange un peu, juste parce qu'on va s'arrêter dans une minute. Dans votre programme, il y a cette proposition de légalisation du cannabis qui fait aussi problème. On recevait l'autre jour Thierry Mandon à votre place, qui est membre du gouvernement, qui disait c'est vraiment pas la peine qu'un ministre de la Santé fasse autant de choses pour éviter les dégâts que peuvent provoquer ce type de drogue auprès de la jeunesse, pour entendre des candidats de mon parti proposer la légalisation du cannabis. Vous voulez répondre?
Écoutez-moi, je pense que les addictions, c'est grave. Et qu'une politique par la prohibition qui a échoué, il faut s'interroger sur le sens qu'il y a à consacrer 550 millions d'euros à de la répression, là où il pourrait être consacré justement, je le dis à Thierry Mandon, à la prévention et à la lutte contre les addictions. C'est trop sérieux aujourd'hui pour laisser des jeunes continuer à se fournir avec de cannabis, sans pouvoir contrôler la qualité de ce qu'ils consomment, et dans des conditions où ils peuvent se mettre eux-mêmes en danger. Moi, je veux sortir du déni d'une société qui, parce qu'elle a peur de regarder la réalité en face, ne voit pas qu'en termes de santé publique, il faudrait aujourd'hui suivre la voie du Portugal ou du Colorado, qui ont des bons résultats en termes de santé publique, et des bons résultats aussi en termes d'ordre public. C'est la raison pour laquelle, là encore, au nom de la santé publique et de la lutte contre les addictions, il me semble que la légalisation est une bonne chose. Je suis suivi sur cela par bon nombre de professeurs de médecine qui considèrent que c'est une voie qui est une voie utile, intelligente, sur le modèle des deux pays que j'ai évoqués, en tout cas d'un État, le Colorado, et d'une nation, le Portugal.
Et les Pays-Bas, d'ailleurs, depuis bien plus longtemps que ça. Les 8h50, on y revient tout à l'heure sur France Info. Voici Victor Maté.
237 000 foyers privés d'électricité dans le nord de la France à cause des vents violents. Les pompiers sont intervenus près de 4 500 fois ces dernières heures. Des chutes d'arbres, des routes coupées, des toitures envolées. Désormais, les rafales de vent ont cessé. La vigilance orange est levée, mais elle est en revanche maintenue dans 11 départements, de la Manche jusqu'à l'Aisne, à cause de la neige et du verglas dans de nombreux endroits. Pas de transport scolaire aujourd'hui. Les cours sont même parfois suspendus. Le premier débat télé de la primaire de la gauche hier soir, un round d'observation, analyse sur France Info du politologue Patrick Lafarge. Les 7 candidats, dont notre invité Benoît Hamon, ont évité l'affrontement mais affirmé leur divergence, notamment quant au bilan de François Hollande. Première inculpation dans l'affaire Kardashian, le braquage de la star américaine de la télé-réalité en octobre à Paris. 4 personnes ont été mises en examen, 6 autres pourraient l'être dès aujourd'hui. Parmi elles, les membres du commando et le cerveau de l'opération. Il va effectuer sa toute première sortie dans l'espace. Le Français Thomas Pesquet va quitter la Station Spatiale Internationale pendant quelques heures aujourd'hui. Sa mission, installer de nouvelles batteries à l'extérieur de la station. Leur mission à eux est beaucoup plus terre à terre, battre le Japon après avoir écrasé le Brésil. Les Bleus jouent leur deuxième match au Mondial de handball en France. C'est à Nantes à 17h45.
France Info. Et la dernière partie de l'émission politique sur France Info avec Benoît Hamon. La question, c'est Gilles Bornstein.
Oui, alors il y a eu un moment quand même un petit peu surprenant dans ce débat. C'est le moment où on a parlé des opérations homicides autorisées, décidées et donc divulguées par le président de la République. On vous écoute tous les uns et les autres.
Au nom de la raison d'État, c'est une responsabilité extrêmement grave.
Ce qui doit être fait, et ce qui doit être tenu secret, doit être tenu secret.
Il y a peut-être parfois des responsabilités à prendre pour protéger ceux que l'on aime.
Dans la nécessité de tout mettre en œuvre pour protéger nos concitoyens.
Oui, c'est parfois nécessaire.
Ma réponse est oui.
S'il faut prendre ce genre de responsabilité, j'y suis prêt, bien entendu.
Donc on s'est dit ce matin que tous autant que vous êtes socialistes, vous acceptez une espèce de brèche dans l'abolition de la peine de mort. Une exécution peut être décidée.
Non, c'est absolument pas ce que moi j'ai dit hier soir. J'ai dit d'abord que ces questions-là relevaient de... Il fallait être un peu plus sobre sur ces questions. En clair...
Ça veut dire quoi ?
Sobre.
Oui, ça veut dire quoi ?
Bah, ça veut dire que moi je considère que ce qui relève aujourd'hui des actions mises en œuvre par les services secrets...
On peut le faire, mais il ne faut pas le dire.
La doctrine, la doctrine française jusqu'à présent... Oui. C'était de ne pas tuer de ressortissants français. Et jusqu'ici, c'était la doctrine. Moi, je pense que la doctrine, c'est la doctrine et qu'il faut rester là.
Nous, on s'est dit que les démocraties occidentales, la France en fait partie, s'enorgueillissent d'avoir aboli la peine de mort. Et là, nous sommes placés, c'est un débat difficile, c'est un débat complexe. Nous sommes placés avec les djihadistes et la montée du terrorisme devant la scène suivante. Un homme ou une femme, un élu, peut décider dans son bureau d'une peine de mort extrajudiciaire.
Écoutez, Jean-Michel Apathy,
et ça ne suscite aucun débat dans la société. Et nous avons été surpris de l'unanimisme hier soir autour de cette peine de mort extrajudiciaire.
Non. Alors, vous vous trompez. D'abord parce que, là encore, en 12 secondes, parler de ces questions-là hier soir, on est dans un exercice impossible.
C'est pour ça qu'on vous entend. Peine de mort extrajudiciaire, oui.
Non, moi, je n'y suis pas favorable. La réalité, c'est que nous avons quoi ? Des Français qui sont sur un théâtre de guerre sur lequel la France...
Les Français ou étrangers, peu importe,
sont des humains. Oui, mais Jean-Michel Apathy, je peux terminer.
Bien sûr.
Sur laquelle la France, elle, intervient notamment par des bombardements. Donc, quand elle bombarde, nos bombes ne distinguent pas ceux qui sont une carte d'identité française ou pas. La responsabilité qui est la nôtre est de tout faire pour que si ces ressortissants français reviennent ou sont en capacité d'être interpellés, nous le fassions et que nous les jugions ici. Mais moi je vous dis, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une forme de peine de mort extrajudiciaire, c'est-à-dire que l'on décide qu'en dehors de tout cadre juridique, en dehors de tout tribunaux, on décide dans le silence de l'Élysée ou d'ailleurs d'une liste de personnes qu'il faudrait exécuter. Je pense aujourd'hui que
c'est ce qui se passe.
Est-ce que
vous avez semblé valider.
C'est ce que le président de la République a dévoilé dans le livre de Gérard Lavie.
Il y a jusqu'ici un principe, la France ne tue pas ses ressortissants, je m'en tiens à cela.
Mais donc est-ce que ça veut dire qu'il faut élargir le champ, par exemple, pas le laisser dans les seules mains du président de la République, mais au moins élargir la décision?
Il y a un certain nombre d'opérations qui sont des opérations où la France protège ses intérêts fondamentaux qui peuvent supposer parfois de prendre des décisions qui consistent à demander une intervention de du service action, la DGSE, de nos forces spéciales, là où on protège nos intérêts. Ces décisions, elles ne peuvent pas se prendre dans le cadre d'une commission parlementaire. Elles doivent être contrôlées a posteriori par le Parlement, mais au moment de les prendre, ça relève du président de la République. Et je pense qu'il faut que cela reste ainsi, et de son état-major, etc. Bon. Mais, voilà, je vous ai dit ma position. Pas de politique de peine de mort extrajudiciaire.
C'est un débat complexe et la nature même de la menace que fait peser le terrorisme nous oblige peut-être à revisiter certains principes et ouvrir ce débat n'est évidemment pas soutenir d'une manière ou d'une autre les djihadistes. Jean-Luc Mélenchon fait peser sur vous, la gauche en jeu, enfin, du moins le Parti Socialiste, et son futur candidat, une menace qu'il décrit lui-même avec un peu d'humour de la manière suivante. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
Vous savez, il y a un petit air de panique, là, chez beaucoup. Hein ? Le casse-noix se met bien en place. Hein ? Pour qu'il y ait un casse-noix, il faut que ça serre des deux bords. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Et au milieu, ça fait de l'huile.
C'est vous qui faites de l'huile. Alors, vous faites partie des gens qui disent qu'il faut aller discuter avec Mélenchon, mais quand on l'écoute là, on se dit que la discussion va tourner court.
Oui, puis à la fin, on aura Le Pen-Fillon.
Ah, peut-être.
Voilà.
Mais quand vous écoutez Mélenchon,
oui,
vous dites quoi?
Mais que moi, je ne me situe pas dans une trajectoire de court terme où ce qui me préoccupe, c'est le sort de ma candidature, et seulement le sort de ma candidature, et peut-être au passage le fait enfin de passer devant le Parti Socialiste pour mai. Voilà. Ce qui m'intéresse.
Oui, je comprends pas bien. Quand là, c'est agressif ce qu'il dit.
Mais voilà.
Ça rompt toute idée de dialogue avec lui. Faut en
convenir. Oui, mais moi, je pense qu'au-delà de Jean-Luc Mélenchon, il y a des électeurs de gauche qui ne veulent pas de Fillon-Le Pen. Et je pense qu'il y a des électeurs de gauche qui peuvent être intéressés par des idées de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi être inquiets d'une stratégie qui est une stratégie qui se défie du rassemblement de la gauche. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, vouloir vaincre le reste de la gauche doivent être l'objectif prioritaire des uns et des autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse la faire gagner. Il me semble plus important de penser la transition écologique, les conditions dans lesquelles demain nous garderons une protection sociale et de voir comment, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Yannick Jadot, avec tous ceux qui appartiennent à la gauche...
Avec Emmanuel Macron.
S'il se dit de gauche,
Il suffit de se dire de gauche.
Avec Emmanuel Macron.
Bah, écoutez, on verra où il est et où il se situe. Pour l'instant,
vous pouvez discuter avec tout le monde.
Vous pouvez discuter
avec tout le monde, sauf avec Emmanuel Macron.
Non, je n'ai pas dit cela.
Si
je n'ai, non, je n'ai pas dit cela. Et j'ai même dit qu'il fallait discuter avec lui. Ça dépendra de lui. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est ambigu. Et il faudra qu'il choisisse parce que où il est à droite, où il est à gauche.
Bon, une dernière question. Les journalistes l'avaient posée au candidat républicain. Ils ne vous l'ont pas posée à vous hier soir et c'est dommage. Vous soutenez bien sûr celui qui gagne la primaire, et quel qu'il soit.
Je l'ai déjà dit 10 fois, la règle
du jeu
est connue depuis le début.
Et vous le répétez ce matin.
La règle du jeu est connue depuis le début.
Mais vous le répétez donc depuis ce matin. Merci Benoît Hamon
d'avoir accepté
l'invitation de France Info.
Et merci à tous. Bon week-end.